Vous écoutez France Culture, il est 6h46, c'est l'heure des enjeux internationaux avec au programme aujourd'hui donc les grands défis de la politique étrangère française. Bonjour Émilie Chaudet.
Bonjour et excellente année à vous tous, chers auditeurs. Nous commençons 2019 avec une question. Quels sont les défis de la politique étrangère d'Emmanuel Macron pour cette nouvelle année? Loin de faire de la politique fiction, nous allons surtout regarder quels sont les chantiers et les questions actuelles que pose cette diplomatie macronienne. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Pascal Boniface. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et vous êtes également enseignant à l'Institut d'Études Européennes de l'Université Paris 8. Alors d'abord, on peut rappeler cette une du Time Magazine, il y a à peine plus d'un an, avec un portrait d'Emmanuel Macron et ce titre interrogatif qui se demandait si le président de la République ne pourrait pas devenir le prochain leader de l'Europe. Un titre surmonté d'une petite astérisque renvoyant à une petite phrase en bas de couverture « Si seulement il peut diriger la France ». Aujourd'hui, Emmanuel Macron peut continuer à faire la une de médias européens, mais avec des titres à l'interrogation plus marqués encore. On a pu voir dans la presse espagnole, le journal de droite ABC, un titre comme « Macron cède ». Dans la presse allemande ou britannique, on se demande si Emmanuel Macron est encore un partenaire de confiance, lui qui a fait marche arrière dans ses réformes à cause de la colère des gilets jaunes. Et pour le cynisme, on peut se rappeler le président turc Recep Tayyip Erdogan ou le russe Vladimir Poutine qui appelle le président français à un usage modéré de la force pour calmer les manifestants, quand Donald Trump aux États-Unis ou Matteo Salvini en Italie se sont félicités de diriger leur pays loin de ce désordre social que l'on peut voir évoluer en France. C'est donc avec un Emmanuel Macron affaibli sur la scène européenne et internationale que s'est terminée l'année 2018 et il se pose beaucoup de questions sur la manière dont la France peut occuper une place de choix à l'heure où elle s'apprête pourtant à présider le G7 pendant toute cette année, à l'heure où Angela Merkel s'approche d'une sortie du pouvoir, à l'heure encore où Donald Trump vient d'annoncer un retrait de ses troupes en Syrie et que les combattants kurdes en ont appelé au renouvellement, au renforcement du soutien de la France sur ce front. On peut aussi parler du défi de l'antiterrorisme, comme c'était l'objet de la dernière visite d'Emmanuel Macron au Tchad la semaine dernière. Alors Pascal Boniface, il y a beaucoup de dossiers à évoquer en peu de temps. Déjà revenons, si vous le voulez bien, sur cette crise des gilets jaunes. Sur le site internet de l'IRIS, vous livrez une réflexion sur l'impact de cette crise française sur l'image mondiale de la France. Les réactions peut-être les plus intéressantes seraient celles du Royaume-Uni ou de l'Allemagne, qui ne glosse pas vraiment sur la capacité d'un président français à maintenir l'ordre, mais plutôt à poursuivre un cap économique et social. Est-ce que cette crise peut durablement discréditer la France comme étant un partenaire de négociations politiques, économiques et sociales? Pascal Boniface.
Tout dépend si on a affaire face à une crise ou si c'est un élément structurel. Si la contestation s'enracine et bloque à la fois le pays et le président de la République, effectivement, sa capacité d'action et de réaction au niveau international sera durablement atteinte. S'il arrive à passer ce cap, si le pays revient calme, si les gilets jaunes mettent fin à leur mouvement, eh bien il aura dépassé cette crise et il pourra de nouveau, pas immédiatement, mais d'ici quelques temps, récupérer une capacité d'action et de réaction. Il est certain que ses ennemis sur la scène internationale se réjouissent de ces difficultés, mais il faut voir que les atouts de la France n'ont pas disparu, pas plus que ses faiblesses structurelles, et que la capacité du pays à proposer des alternatives, à faire du multilatéralisme, à proposer des solutions, reste la même. Simplement, là, il y a un empêchement parce que le président de la République est inaudible sur le plan international du fait du bruit très grand qu'il y a sur la scène nationale.
Alors, un président inaudible en ce moment, en tout cas sur la scène internationale, et ça tombe plutôt mal puisque c'est un moment où la France s'apprête à prendre la présidence du G7. C'est une période où l'image de la France est fragilisée et où pourtant Emmanuel Macron va devoir tenir bon face aux injonctions de Donald Trump, par exemple, qui veut réintégrer la Russie dans le club. Il propose, Emmanuel Macron, un format un peu modifié de cette présidence du G7 avec un dialogue permanent avec la Chine sur le climat, avec l'Inde aussi sur le numérique, avec l'Afrique sur la jeunesse. Est-ce qu'on peut y croire à cette présidence un petit peu modifiée, un peu modernisée du G7? Est-ce que c'est pas juste un effet d'annonce?
Non, le G7 restera le G7. Il peut y avoir effectivement des négociations, mais finalement, c'est un peu le multilatéralisme à la carte que Emmanuel Macron a célébré dans son discours devant les Nations Unies. Son objectif, c'est de trouver des alliés, sujet par sujet, pour contrer l'unilatéralisme de Trump. La mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'avec l'élection de Bolsonaro et sa prise de fonction,
au Brésil,
oui, un allié potentiel important, le Brésil, qui est quand même la 7e ou 8e puissance mondiale, il peut peut-être vouloir s'appuyer un peu plus sur le Mexique. Et effectivement, par exemple, même si on a des accords importants avec la Chine, notamment sur le plan commercial, sur le plan de la protection du climat, il y a un axe Paris-Pékin qui peut être mis en avant. Il y a l'alliance solaire avec l'Inde. Et effectivement, on voit que Emmanuel Macron recherche un petit peu partout une sorte de multilatéralisme à la carte, de voir dossier après dossier quelle alliance pragmatique il peut avoir, il peut nouer pour effectivement contrer la dérive unilatérale qui est celle de Trump, mais qui est également celle d'autres leaders, d'ailleurs y compris en Europe, avec notamment Orban et Salvini.
Alors justement, face à Trump, comment est-ce que Emmanuel Macron peut aujourd'hui se positionner ? Vous disiez, Pascal Boniface, dans cette réflexion que vous livriez sur le site internet de l'IRIS, qu'il y a quand même un espace en ce moment pour que la France puisse encore répondre à Trump malgré cette crise des gilets jaunes qui la fragilise sur la scène nationale.
Oui, effectivement, parce que Trump met le monde au défi. Il veut mettre à la fois, en disant que l'Amérique ne veut plus être le gendarme du monde, il peut donner satisfaction à ceux qui trouvent qu'elle est un peu trop pesante, sauf que les solutions qu'il veut proposer sont toujours des solutions de force, pas forcément de force militaire, mais on voit bien avec l'application des lois extraterritoriales de vouloir imposer la volonté de l'Amérique au reste du monde et de tenter finalement de mettre en place un monde unipolaire où il n'y aurait pas d'espace pour ceux qui seraient en désaccord avec les États-Unis. Et ceci quand même froisse beaucoup de pays. Donc là, tout dépendra bien sûr de sa capacité d'action, mais il y a un espace à remplir parce qu'il y a un vide au pouvoir. C'est ce vide que Emmanuel Macron était censé remplir lorsqu'il est arrivé à l'Élysée en mai 2017. Et finalement, vous avez parlé de la fin de mandat de Mme Merkel. Les Allemands, et cela compte, sont effarés et catastrophés de la politique américaine. Et il y a d'autres États en Europe également qui recherchent un petit peu à se dire comment peut-on faire face à cela. Après la rupture de l'accord nucléaire iranien et surtout après la demande de Trump de dire ce sont les États-Unis qui pourront décider qui a le droit de commercer ou non avec l'Iran, il y a certainement des passerelles à avoir avec d'autres pays, dont notamment la Chine et la Russie, qui partagent les positions de la France et de l'Allemagne sur ce sujet.
Quel est l'avenir, en un mot, du couple franco-allemand en ce temps où Angela Merkel est quand même, comme on l'a dit, vers une sortie, vers un départ, et que la situation de la France est celle que l'on vient de décrire en ce moment?
Bien sûr, dans le cas de Mme Merkel, elle est bien sûr sur le départ. Justement, elle a 2 ans d'utile derrière elle et sa succession est assurée puisque c'est celle qu'elle soutenait qui a pris la tête de la CDU et donc elle n'a pas à faire front à une fronde intérieure sur le plan politique. Il n'y a pas de substitut entre la France et l'Allemagne. Ni la France ni l'Allemagne n'ont d'alliés de substitution pour faire bouger les choses en Europe. Pendant très longtemps, la France a craint que l'Allemagne ne se renforce. On a besoin aujourd'hui d'une Allemagne qui puisse être forte et mobile pour avancer, parce que la France seule ne peut pas faire grand-chose, mais l'Allemagne non plus. Même si l'Allemagne est en meilleure santé économique et commerciale que la France, elle n'est pas membre permanente du Conseil de sécurité, elle n'a pas une capacité militaire de projection, et donc les deux pays sont très complémentaires. Et ce qu'on appelait très longtemps le couple franco-allemand reste le seul produit qui puisse, le seul moteur possible pour l'Union européenne ou pour les pays de l'Union européenne qui voudront avancer. Et donc nous avons réellement besoin l'un de l'autre, parce que sans l'autre, on ne peut pas faire grand-chose. Et disons que le grand espoir de beaucoup était que le couple franco-allemand se reforme, ce couple franco-allemand qui avait eu des difficultés lors des 2 précédents quinquennats. Cela n'a pas été possible une fois encore parce que il y a eu des dissensions politiques intérieures allemandes qui ont été au moins aussi fortes qu'en France. Et donc là, peut-être que c'est l'occasion d'un nouveau départ. Peut-être que ce G7 peut être l'occasion. On sait aussi qu'en mars et avril, la France et l'Allemagne vont successivement présider le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils ont décidé de ne pas le présider successivement mais conjointement pendant les 2 mois. Donc il y a de nombreux champs possibles grâce à cette coopération franco-allemande que et l'Allemagne et la France se relancent à la fois mutuellement et chacune d'entre elles.
Vous parliez tout à l'heure, Pascal Boniface, de la Russie et de la Chine qui peuvent aussi devenir des partenaires un peu plus importants pour la France. Sur quel dossier est-ce que ces pays peuvent se rencontrer ?
pour la Chine, c'est évidemment sur l'accord de Paris, sur l'accord climat, parce que la Chine, qui reste le pays le plus grand émetteur de CO2, a pris un tournant, effectivement, intéressant pour elle économiquement, de lutte contre la dégradation climatique, qui est une entrave à son développement et qui est en même temps un problème de santé publique en Chine. La Russie est moins sensible à cela, évidemment. Mais sur d'autres dossiers, comme par exemple le Sahel, on peut aussi coopérer avec ces pays. Et puis, il y a également, bien sûr, sur l'accord nucléaire iranien et la remise en cause, non seulement par Trump, de cet accord, mais surtout l'interdiction qu'il veut énoncer à certains pays de pouvoir commercer avec l'Iran. Donc, il y a sur le front diplomatique, par rapport à la Russie, on a des différends graves sur l'Ukraine, sur la Syrie. On a également des champs d'action possibles. Et puis, il faudrait peut-être aussi se libérer des slogans de l'OTAN qui montrent la Russie comme une menace militaire en Europe, alors que c'est certainement un défi stratégique et politique. Ce n'est en rien une menace militaire. Rappelons que le budget militaire de la Russie est de 60 milliards de dollars, celui des États-Unis de 720 et celui des pays européens de l'OTAN de 250. Donc l'OTAN un peu grossit la menace russe pour justifier son maintien et son développement.
Alors, un point sur l'Afrique et sur la lutte contre le terrorisme. La dernière visite diplomatique en date d'Emmanuel Macron, c'était au Tchad le 22 décembre dernier. Le président de la République s'est rendu avec la ministre des Armées, Florence Parly, au camp Kosseir, considéré comme un centre névralgique d'une opération antiterroriste lancée en 2014. Il y a là la volonté de se montrer plus que jamais comme un rempart au terrorisme mondial, mais c'est une volonté qui est mise à mal par le manque de moyens matériels et financiers de la France.
Oui, tout simplement par l'ampleur du défi, la surface à surveiller est vraiment hors de proportion. Et puis l'aspect plus gênant, Emmanuel Macron était arrivé avec la volonté d'avoir une nouvelle relation avec l'Afrique, de changer de cap et d'enterrer, de mettre le dernier clou dans le cercueil de la France-Afrique. Malheureusement, la lutte contre le terrorisme contraint la France à faire pacte avec des régimes, disons, difficilement recommandables et qui ont du mal à incarner l'avenir de l'Afrique. Vous avez là, au Tchad, dans certains pays, des dirigeants qui sont là depuis une trentaine d'années et que la France continue de cultiver par nécessité, par obligation, et qui ne représentent en rien l'avenir de l'Afrique. Donc on peut dire que là, la priorité absolue de la lutte contre le terrorisme empêche un peu de tourner la page, et on peut dire que Idriss Déby n'incarne peut-être pas l'Afrique nouvelle.
Une toute dernière question, Pascal Boniface, très rapidement. Il est aussi annoncé pour 2019 une baisse du budget pour les diplomates, une contraction de 10% de la masse salariale d'ici à 2022, et une nouvelle donne budgétaire qui fait que les ambassadeurs vont devoir apparemment désormais agir en manager dans une logique de start-up et proposer une nouvelle organisation de leurs équipes au sein des ambassades. Qu'est-ce que ça dit de la direction qu'Emmanuel Macron veut faire prendre à la diplomatie française ?
Que les ambassadeurs soient des managers, ils le sont déjà. En fait, il faut un peu arrêter avec l'image surannée de diplomates, d'ambassadeurs qui passeraient leur temps à boire du thé ou du champagne. Ce sont déjà des managers. Par contre, et vous faites très bien de le pointer, il y a une vraie contradiction. Au mois d'août, lors de la conférence d'ambassadeurs, Emmanuel Macron, le lundi, avait un discours très ambitieux d'une France active dans le monde. Et le lendemain, Édouard Philippe, le Premier ministre, venait effectivement annoncer une baisse de 10% des moyens d'ici 2022. Et c'est parfaitement contradictoire. Le budget du Quai d'Orsay est déjà très réduit. Il est en réduction constante. On a réduit le nombre de diplomates de moitié depuis 30 ans. On arrive un peu à l'os. Et donc, il faut faire des choix. Et on ne peut pas vouloir être actif dans le monde et réduire sans cesse les moyens d'action, aussi bien diplomatiques que culturel du Quai d'Orsay.
Eh bien, merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été notre invité ce matin du 1er janvier 2019. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et je rappelle également qu'on peut écouter, réécouter, podcaster cette émission sur notre site franceculture.fr à la page des enjeux internationaux. Demain, mercredi 2 janvier, vous retrouverez Xavier Martinet à ce micro. Excellente journée à tous à l'écoute de France Culture.